l'hebdo des régions, avec la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Immo. Nous sommes en direct à 11h pour ce nouvel épisode de l'Hebdo des Régions. Cette émission est en partenariat, bien sûr, avec la FPI. C'est l'occasion de recueillir les retours d'expérience d'élus et d'adhérents FPI en région. Au programme, le mot du président, l'édito de Christophe Bordet. Alors, mon cher compagnon Christophe Bordet ne sera malheureusement pas parmi nous aujourd'hui, mais il m'a enregistré son petit édito, ce qui nous permettra de faire réagir nos invités dessus. Nous aurons également le débat avec nos invités du jour, qu'on ne va pas tarder à vous présenter. Aujourd'hui, nous partons dans la région Hauts-de-France, au nord de l'Hexagone. Pour ce faire, je serai accompagnée de Monsieur Philippe Depasse, président de la FPI Hauts-de-France. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bah écoutez, bien, comme un promoteur doit toujours finalement être optimiste, même si la conjoncture est complexe.
On vous retrouve dans quelques instants pour le mot du président. Je continue la présentation de notre plateau. On aura également monsieur Jean-Michel Sède, président de l'Observatoire Cessim Nord et directeur général de Loger Habitat. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Charlotte.
Écoutez, on est ravis de vous accueillir. Je pense qu'on va faire une belle émission. Et enfin, pour compléter ce plateau, nous accueillons Éric Depré, directeur général d'Oria Promotion.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Éric. Bonjour. Alors, on va démarrer tout de suite, après notre petite virgule, par le mot du président. Jingle.
L'hebdo des régions, avec la Fédération des promoteurs immobiliers.
Alors Philippe, je vous retrouve. La pause fut de courte durée. L'idée, c'est de faire un peu de pédagogie quand même, même si on a l'habitude maintenant de faire cette émission. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rôle de président, nous présenter un petit peu la fonction et puis la région dans laquelle vous œuvrez ?
Eh bien, la Fédération des promoteurs immobiliers Hauts-de-France, c'est 35 promoteurs qui réalisent, on va dire, dans une année normale. Alors, vous doutez bien que l'année 2020 et 2021 ne sont pas des années tout à fait comme les autres. 4000 logements et 4000 logements essentiellement, finalement, concentrés sur la métropole lilloise qui draine une grande partie de ces 4000 logements. Mon rôle en tant que président régional de la FPI, c'est finalement d'être un petit peu le relais entre finalement ce monde de la promotion et l'ensemble des parties prenantes. Et bien évidemment, les premiers intéressés sont les élus, alors élus à la fois des collectivités locales, villes et agglo, MEL ici en l'occurrence. Et puis, on va dire, faire en sorte que les positions de la fédération nationale soit relayée ici en région et finalement d'être un petit peu la courroie de transmission entre la région des Hauts-de-France et puis le national avec Alexandra François-Cuxac, présidente actuelle de la fédération.
Ça fait combien d'années que vous êtes en charge de ce rôle de transmetteur ?
Eh bien, ça fait presque 6 ans, donc on a la possibilité de faire 2 mandats de 3 ans. Donc, j'arrive au bout de mon 2e mandat et fin juillet, eh bien, je passerai la main et je crois comprendre que Jean-Michel sera celui qui me succédera. Donc, voilà, au bout de 6 ans, je pense que j'aurai contribuer à faire de cette fédération une fédération unie, parce que bien évidemment, comme toutes les fédérations, une des missions de son président, c'est de faire en sorte qu'elle parle d'une seule voix, et je pense qu'on y est arrivé. Et puis avec un certain nombre de réussites, notamment dans le dialogue avec les élus.
Eh bien, écoutez, on est ravis du coup d'avoir l'actuel président et le futur président. Vous avez vendu la mèche. Alors, quelle est la conjoncture dans votre région au presque sortir de ce 3e confinement ? Alors, on a eu les dates hier. Apparemment, c'est un déconfinement plus progressif que ce qui nous avait été annoncé. J'imagine que l'année a dû vous impacter. Qu'en est-il dans la région Hauts-de-France ?
Écoutez, Il y a d'abord effectivement deux marchés. Il y a le marché du résidentiel et le marché du tertiaire. Le marché du résidentiel a résisté et sans doute mieux qu'on ne pouvait le craindre, hein, même si les réservations ont été en baisse. Mais bien évidemment, l'année 2020, ça a été quasiment trois mois où les bureaux de vente ont été fermés. Donc, c'est vrai que la baisse a été de 30% sur les réservations dans le résidentiel. Donc, le résidentiel a souffert en 2020, mais les chiffres 2021 montrent que finalement, la demande de logement est toujours là, très forte. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement positif. Sur la partie tertiaire, c'est-à-dire l'immobilier de bureau, c'est plus compliqué parce que vous doutez bien que l'ensemble des dirigeants d'entreprises sont aujourd'hui un peu en questionnement sur le bureau de demain, sur les mètres carrés dont ils vont avoir besoin. Est-ce que le télétravail aura un impact? Comment j'organiserai mon entreprise après cette crise? Donc le résidentiel résistant avec, on va dire, une demande qui est toujours là, le tertiaire un peu finalement en position d'attente. Le vrai sujet d'inquiétude, bien évidemment, c'est un petit peu l'attitude des élus qui sont bien évidemment préoccupés par cette crise et qui ont un peu plus de mal à délivrer des autorisations d'urbanisme. Sans doute, on va dire, ils sont dans une forme d'interrogation sur c'est quoi le logement de demain, qu'est-ce qu'attendent finalement les habitants de ma ville, est-ce qu'il faut de la densité, est-ce qu'il faut continuer finalement à délivrer des permis comme avant. Je pense que là, c'est un vrai sujet.
Oui, je crois que vous avez un petit coup de gueule, enfin, si je puis me permettre, à passer là-dessus. C'est-à-dire que les promoteurs, du fait de cette difficulté à obtenir la délivrance de permis de construire, ont peut-être des relations qui se sont un peu tendues avec les élus ?
Oui, c'est évident. Évident parce que si c'est vrai que d'un point de vue strictement réglementaire, il y a un plus. Ce plus, alors sur ici la métropole lilloise, c'est le plus 2 qui est actuellement, je veux dire, en vigueur. Ce plus, il est finalement le document légal sur lequel nous appuyons pour finalement faire nos études et obtenir donc des autorisations de permis de construire. Et ce plus, il a été mis, je veux dire, en approbation, il a été délibéré par les élus communautaires, il a été mis à porté à la connaissance du public, il a été finalement validé après une période extrêmement longue. Donc ce plus, finalement, il est finalement le document de référence sur lequel tout le monde s'appuie pour obtenir ses autorisations. Et on voit bien que certains maires sont un petit peu finalement dans une remise en cause de ce document, ce qui, bien évidemment, n'est pas du goût des promoteurs qui bien finalement essaye de produire du logement pour nos concitoyens dans le cadre finalement de ce plus. Donc les difficultés que les maires arguent, qui des fois sont des difficultés on va dire un petit peu d'intérêt particulier, finalement mettent de mauvaise humeur la profession. Donc là, il y a un vrai sujet de dialogue. Alors j'espère tout simplement que dès lors que cette crise, et vous avez rappelé qu'on allait en sortir progressivement, eh bien que le dialogue se refluidifie et que de nouveau les maires accueilleront bien volontiers pour discuter des projets les promoteurs dans leur mairie.
Alors, il va y avoir un trou, probablement, dans le sens où on rappelle qu'une opération de promotion, bah, il se passe quand même un délai entre le moment où ça se décide et le moment où les occupants prennent place dans les lieux. Généralement, un délai, alors c'est variable, hein, je pose la question à chaque fois, mais on me dit que ça peut aller de 1 à 3 ans. Donc, on va couper la part en deux. On va dire qu'entre le début et la fin d'une opération, il se passe à peu près 2 ans. Donc du coup, les absences de...
Charlotte.
Oui, dites-moi.
Excusez-moi Charlotte de vous interrompre. Globalement, aujourd'hui, obtenir un permis et le purger, c'est-à-dire finalement, une fois que tous les riverains, l'État auront fait valoir leur recours, c'est entre un et un an et demi. Ça, je pense que c'est le délai moyen. Et ensuite, il y a le délai de réalisation, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce que les promoteurs étudient, eh bien, c'est des projets qui verront le jour dans 3 ans. On remettra les clés dans 3 ans. Quoi.
Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, s'il y a eu une période pendant laquelle les permis de construire ont été plus difficiles à obtenir, le réel impact, finalement, aura lieu sur cette période glissante.
Dans la livraison, tout à fait. Dans les réservations, ce sont les réservations, finalement, qui vont commencer à en pâtir parce que, finalement, il y aura moins d'offres sur le marché, donc bien évidemment moins d'offres, moins de réservations. Et sur la livraison, c'est des livraisons bien évidemment qui seront finalement impactées en 2023 et 2024.
Avec réaction en chaîne probablement aussi sur l'emploi du coup.
Oui, oui, sur l'emploi bien évidemment. Alors on dit toujours que un logement c'est 2 emplois. Alors il y a l'emploi direct et puis après il y a bien évidemment tous les gens qui travaillent dans les architectes, les maîtres d'œuvre qui suivent les chantiers, les notaires, les banquiers qui financent. Bref, vous voyez que tout autour du logement, il y a énormément d'activités connexes. Donc, on dit toujours un logement, 2 emplois. Et ce qui veut dire que, par exemple, dans notre métropole, on voit bien qu'une année normale, c'est 4000 logements et que l'année 2020, on a réservé 2500 logements, ce qui veut dire 1500 logements non réservés et donc à peu près 3000 emplois perdus. Alors, ce qui est énorme, ce qui est énorme et qui ne se sent quasiment pas. Alors, vous allez me dire, mais finalement, pourquoi les gens ne descendent pas dans la rue? Tout simplement parce que finalement, ces 3000 emplois sont perdus parce que tel plombier va pas renouveler 3 intérimaires, tel couvreur finalement devait embaucher et n'embauche pas, ou éventuellement licencie 2 ou 3 personnes. Donc c'est finalement de multiples petites entreprises, parce que finalement on fait vivre l'ensemble du territoire, qui finalement les unes et les autres vont ne pas renouveler des intérimaires, ne pas embaucher, licencier 1 ou 2 personnes. Et tout ça finalement sur cette région, ça représente 3000 emplois. Et vous doutez bien que si c'était 3000 emplois sur un site industriel, on ferait effectivement les unes de la presse. Malheureusement, finalement, dans ce qui se passe dans ce métier, c'est une forme de disparition d'emplois, mais qui est tellement éparpillée que finalement, elle fait beaucoup moins parler.
Oui, c'est le cas de petites entreprises. On va demander à Jean-Michel, en tant que futur président de la FPI Hauts-de-France, ce qu'il en pense et comment il va relever le challenge.
Oui, déjà, il y a quand même des élections. Il faut respecter quand même les règles démocratiques d'une fédération. Et c'est d'autant plus que le mandat que je voudrais porter est plutôt un mandat d'une équipe et pas uniquement d'un président. Donc c'est pour ça qu'on est en train de bâtir, appelons ça un bureau, mais en tout cas une équipe pour m'accompagner dans le prochain mandat, donc avec Vincent Catrice, Antoine Mar et Sébastien Burel. L'idée étant de constituer un bureau solide s'appuyant sur des groupes de travail thématiques pour faire participer et nous faire accompagner de l'ensemble des adhérents et la plus large base possible. Parce qu'effectivement, les enjeux, Philippe l'a évoqué, sont importants. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de réactions à avoir vis-à-vis des collectivités. On est sollicité de plus en plus comme interlocuteur professionnel. Donc il faut qu'on soit présent, il faut qu'on veille à chaque fois qu'il y a des évolutions des réglementations à ce que nos professions s'y retrouvent, entre guillemets, et puis qu'on puisse défendre nos adhérents et diffuser auprès d'eux les informations et les évolutions qu'il peut y avoir sur les différents marchés.
Alors, dans l'idée de respecter ce processus démocratique, merci Jean-Michel, je vous propose qu'on fasse le voyage avec Christophe Bordet, qui n'est pas parmi nous, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, et qu'on revienne vous voir juste après pour parler de l'Observatoire dont vous tenez actuellement la présidence. À tout de suite.
L'hebdo des régions, avec la Fédération des promoteurs immobiliers.
dorme un petit quinquin, mon petit pouchin, mon gros rogin. Tu me feras du chagrin si tu ne dors point jusqu'à demain. Ah, chers amis, je n'ai pas résisté à la tentation, moi l'ancien Lillois, 3 ans de ma vie, de vous chanter le petit quinquin que l'on entend chaque jour dans la capitale des Flandres et dont on ne peut se passer. C'est la culture, c'est beau la culture. Et puis, la culture aussi de cette brique rouge, oui, cette brique rouge qui fait tout le charme de Schnorr, puisque on parle habitation, puisque l'on parle bâtiment. Les briques rouges, on les croise tous les jours là-bas. Elles reflètent l'âme des maisons du bassin minier, des corons, de l'habitat ouvrier. Les briques rouges font aussi partie intégrante du patrimoine industriel de Roubaix, de Tourcoing, en passant par la mairie de Boulogne-sur-Mer, l'hôtel de ville de Calais et son beffroi, la chambre de commerce de Lille et son beffroi, les îlots rouges de Dunkerque. Ces briques rouges, c'est comme une évidence. On trouve de la terre cuite dans le nord dès l'époque gallo-romaine. Au départ, on a utilisé de l'argile séchée pour construire des habitats. La brique est vue également par une bonne partie de la France, il faut le dire, comme quelque chose de triste, de moche, de plombant. Mais attention, elle se pare d'atouts plus prestigieux, elle devient brique Matisse, du nom du peintre qui a son musée à Cateau-Cambrésis. Oh, Cateau-Cambrésis, que dis-je ? Celle-ci est alors structurée, sablée, nuancée de brun, de jaune, de rouge foncé. Elle peut aussi devenir Van Gogh et prendre une couleur rouge structurée, sablée, nuancée. Contrairement à la croyance populaire qui voudrait que la brique soit la reine du Nord, eh bien non, c'est à Toulouse qu'elle triompha d'abord, grâce à un homme, même pas nordiste d'ailleurs, Auguste Virebon, en 1830, qui a breveté la fabrication industrielle du direct-angle. Bref, la brique, aujourd'hui, c'est quand même le Nord, plus que jamais le Nord. Le Nord, c'est beau. Brique dans le ventre, chaleur dans le cœur, comment ne pas aimer les nordistes ?
Voilà, c'est terminé ce petit voyage fantaisiste, historique, qui présente votre région sous les auspices de la brique, si je puis dire. Est-ce que ça vous a plu ? Je vous ai vu sourire, Philippe. Ça vous a plu, ce petit édito ?
Oui, c'est un clin d'œil. Et je crois que de temps en temps, on est un petit peu tiraillé. Par des fois, finalement, ces images d'Épinal où on aimerait donner une image du Nord peut-être plus moderne, plus tournée finalement dans tout ce que sait faire la région. Mais en même temps, moi, j'assume finalement cette brique, ces racines, ce côté chaleureux de la population, où il y a vraiment le sens du travail, il y a finalement cette facilité de dialogue entre eux. On parlait des élus avec lesquels nous avons des difficultés, mais finalement, je constate que c'est finalement encore plus dur ailleurs. Donc j'aurais tendance à encore une fois, me féliciter d'être dans cette région. Donc finalement, non, tout ça me va bien. Cette brique caractérise bien évidemment, bien sûr, notre métier, et j'en suis fier.
Merci. Eric, un petit mot sur cet édito ?
Bon, je suis d'accord avec Philippe. Et dans le cadre du bas carbone dont on va parler tout à l'heure, effectivement, la brique est un matériau local qui rentre vraiment dans la conception d'un bâtiment bas carbone.
Eh bien oui, effectivement, on va revenir sur le bas carbone après. Vous nous expliquerez ce en quoi ça concerne la brique. Alors, Jean-Michel, on s'est promis de se parler un petit peu de cet observatoire. Alors, en quelques mots, en deux mots, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de la création de cet observatoire Cécime Nord ?
Oui, très rapidement. Enfin, on avait déjà, nous, sur la région Nord-Pas-de-Calais, l'habitude de transmettre nos informations et de partager entre promoteurs les informations sur nos programmes. Et puis, à l'initiative de Marc Pigeon, il y a une bonne dizaine d'années, un peu plus de 10 ans maintenant, la Fédération des promoteurs immobiliers, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, a souhaité disposer d'un observatoire national afin de mieux connaître les marchés, de mieux communiquer avec les instances nationales sur la teneur des marchés. Et donc nous sommes appuyés sur le CECIM, qui est une association qui est née dans les années 70 à Lyon, créée par les promoteurs immobiliers lyonnais, justement avec cet objectif de mieux connaître ces marchés et puis de partager cette information, bien sûr entre promoteurs, mais également avec les collectivités et l'ensemble des professionnels des métiers de la promotion. Voilà. Et donc le CESIM Nord existe depuis 2011, compte 47 adhérents dits actifs, c'est-à-dire qui transmettent des données, donc l'essentiel, les 35 promoteurs privés dont a parlé Philippe, de la FPI, et puis les acteurs de l'Union régionale HLM qui font de l'accession à la propriété, surtout de l'accession sociale à la propriété. Et nous avons également parmi nous des adhérents plus institutionnels ou partenaires, comme différents établissements bancaires, la Chambre interdépartementale des notaires, la Sainte-Ville Renouvelée, l'EPF et la MEL, la Métropole Européenne de Lille, puisque le CESIM Nord est l'observatoire pour le compte de la MEL dans le cadre du suivi de sa politique de l'habitat.
Eh bien, merci Jean-Michel. Je crois qu'on a à peu près saisi que c'était un bel exemple de collaboration interprofessionnelle, ce oui. CESIM. Est-ce que vous pouvez nous donner les principaux indicateurs chiffrés sans rentrer dans des données trop complexes, mais en tout cas, en ce qui concerne les promoteurs, avez-vous 3-4 chiffres à nous faire partager d'ailleurs?
Oui, les chiffres, effectivement, que Philippe en a parlé un peu, mais qu'on mesure, sont les réservations, les mises en vente et l'offre disponible, hein, et puis les prix de vente. Voilà, les 4 chiffres qu'on peut suivre rapidement. Donc, effectivement, 2020 s'était traduit par une baisse des réservations de 36% sur notre territoire. Alors, on va plus se zoomer, puisqu'on a des chiffres plus récents sur le SCOT de Lille, qui représente effectivement 80% de l'activité de notre territoire. Quand on regarde le premier trimestre 2021, il y a effectivement, par rapport à 2020, un rebond des réservations, heureusement, puisqu'il y a quand même, en 2020, le mois de mars était quand même très étriqué, puisque tout s'est arrêté la mi-mars. Mais donc on fait plus 10% par rapport à 2020. En revanche, si on compare à 2019, on est encore à 15% en dessous des chiffres de 2019.
Hein. Oui, donc 2019 qui reste l'année de référence pré-Covid, je puis dire.
Exactement, voilà. Alors même si chaque année a ses aléas pour diverses raisons, mais disons que c'était une année entière de commercialisation. Donc en augmentation par rapport à 2020, mais je dirais que dans les mois qui viennent, en tout cas sur le prochain trimestre, normalement l'augmentation devrait être encore plus sensible par rapport à 2020, puisqu'il ne s'est rien passé sur le deuxième trimestre de 2020. Donc c'est pour ça que je compare à 2019 pour avoir des ordres de grandeur un peu plus fiables. Donc les réservations se tiennent à un rythme légèrement inférieur à 2019. Les mises en vente ont augmenté par rapport à 2020, mais là, même topo. En revanche, elles sont 40% inférieures à ce qui se passait en 2019. Donc, ça rejoint ce que disait Philippe.
Ce qui est assez énorme.
Et ce qu'on disait tout à l'heure sur la difficulté de mise au point de nouveaux dossiers sur l'année 2020, Covid plus élections municipales, donc deux facteurs qui ont quand même impacté beaucoup la mise au point des projets. Donc, l'offre disponible, finalement, est à peu près stable, puisque les réservations ne sont pas suffisamment nombreuses pour compenser cette baisse de nouvelles mises à l'offre. En revanche, un phénomène qui est là pour le coup assez et qui se confirme d'année en année, c'est l'augmentation des prix. Puisque quand on regarde le prix du collectif sur le SCOT de Lille, en 2019, il avait augmenté de 2,6% par rapport à 2018. En 2020, de plus 4,3%, malgré le Covid, et en 2021, quand je prends les chiffres du premier trimestre, on est à plus 5% par rapport à 2020. Donc par rapport à la discussion qu'on va avoir après, il faut quand même déjà intégrer que, effectivement, la difficulté de trouver des nouvelles opérations pour les opérateurs, puisque difficulté dans les autorisations administratives et dans les comportements des citoyens et des élus par rapport à l'acte de construire, fait qu'il y a quand même une forte pression sur les fonciers, qu'il y a une forte pression aussi sur les coûts de construction, puisque les matériaux augmentent fortement, notamment en ce moment.
Oui, c'est le gros sujet.
C'est un gros sujet. Et donc, même, j'allais dire, à réglementation équivalente, on voit l'inflation de ces dernières années. Donc, ça va être, me semble-t-il, aussi un des forts enjeux de la mise en œuvre des politiques bas carbone sur nos opérations.
Eh bien, écoutez, justement, je vous propose de passer à ce sujet du bas carbone et de laisser s'exprimer Éric Depré. Éric, vous nous entendez ?
Je vous entends.
Alors,
je vous entends, oui.
Alors, en tant qu'adhérent FPI, vous vous êtes engagé dans le passage au logement bas carbone. Est-ce que vous pouvez déjà nous définir précisément ce terme ?
Alors, précisément, on va essayer. On va rappeler d'abord que donc, cette démarche découle d'une volonté politique d'atteindre la neutralité bas carbone, la neutralité carbone du pays à l'horizon 2050. Donc, on s'est posé la question pourquoi le bâtiment. Donc, il faut savoir que le bâtiment concentre 45% des consommations d'énergie et un peu moins de 30% des émissions totales de gaz à effet de serre en France.
Soit
d'où cette réflexion. Comment ?
Soit un tiers.
Sur la France, oui, oui. Ouais. D'où cette réflexion pour diminuer l'impact du bâtiment sur les émissions de CO2 et de réduire donc de 45% celle-ci d'ici 2030. Donc, un logement bas carbone, l'objet d'un logement bas carbone, c'est donc diminuer ses émissions de 50 à 60% au niveau de la construction et également au niveau de l'exploitation du bâtiment.
Ce qui est un gros enjeu, pardon.
Ouais, ce qui est plutôt un enjeu assez important, effectivement. Comment on fait pour faire ça ? Donc, on construit avec des matériaux pérennes, avec des matériaux peu émetteurs en CO2, et on réduit les consommations d'énergie en favorisant donc des énergies peu carbonées, donc en privilégiant des énergies renouvelables ainsi que l'électricité. Alors, ça s'accompagne une opération donc immobilière bas carbone. Ça s'accompagne bien évidemment d'une démarche environnementale plus globale, qui est en train de se réaliser actuellement avec la ville de Lille, puisque ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille donc sur un nouveau référentiel avec la ville.
Alors justement, la ville de Lille a mis en place des ateliers dont vous m'avez parlé en amont de cette émission sur ce thème. C'était important pour la FPI d'en être.
Oui, tout à fait. L'objet de participer à ces ateliers, c'est d'être un acteur en fait de ces modifications et pas subir ultérieurement en fait ce référentiel. Donc, avec Philippe Depasse et l'FPI, on a trouvé intéressant donc de participer à cette nouvelle charte quelque part. Donc, on n'est pas les seuls, puisqu'il y a la totalité de ceux qui fabriquent la ville, les aménageurs, les promoteurs et les bailleurs sociaux. Donc, ça fait à peu près 2 ans qu'on réalise à intervalles réguliers des ateliers organisés par la ville de Lille.
Et donc, ces ateliers ont donné lieu à une lettre d'engagement, si je ne dis pas de bêtises, qui sera présentée par Martine Aubry le 3 mai prochain. Que contient cette lettre, cher Éric ? C'est ce qui nous intéresse.
Cette lettre, c'est donc effectivement, il y aura une grande visio organisée ce lundi prochain, là, où il y a un peu plus de 200 personnes de conviés, donc tous les acteurs de la fabrication de la ville, comme je disais. Donc, il faut savoir que c'est une démarche volontaire, cette démarche, qui n'a pas de valeur juridique à proprement dit, mais c'est vraiment une volonté de la profession de s'inscrire dans cette démarche de réduction du CO2 et d'amenuir notre empreinte bas carbone. Donc, tout ce qui a été mis en place, bien évidemment, ce que disait un peu Jean-Michel tout à l'heure, il faut que ce soit soutenable économiquement et que ça ne rende pas donc, l'équilibre des opérations impossible. Donc, il y a eu un travail de fait sur ce sujet-là. Il y a eu des allers-retours, des échanges. Et les principaux leviers pour aboutir à un logement bas carbone ont été retenus à peu près 6 thèmes. Donc, il y a eu l'énergie et l'eau dans laquelle on va réduire la consommation de nos énergies au niveau du bâtiment, donc avoir une meilleure isolation, une meilleure étanchéité à l'air, avoir recours à des énergies renouvelables et une conception bioclimatique.
D'accord.
Ensuite, on passe au niveau du thème qui est les matériaux bas carbone et l'économie circulaire. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donc valoriser tout ce qui est déchets de démolition, utilisation de matériaux biosourcés, utilisation du bois, et également utilisé du réemploi. Donc, tout ce qui est matériaux qui ont déjà été utilisés, on leur redonne une seconde vie. Ensuite, il y a la biodiversité. Donc, c'est privilégier essentiellement la conservation des arbres, des activités potagères. Ensuite, on passe au thème de l'adaptation au changement climatique. Donc là, c'est tout ce qui est îlot de chaleur, donc avoir comment dire, des bâtiments plus frais, mmh. qui amènent moins de chaleur également dans l'environnement, donc avoir des toitures végétalisées, planter des arbres à proximité des façades. Et tout à l'heure, on parlait de briques, mais la brique n'est pas forcément rouge, hein, puisque avoir des briques de teinte claire, par exemple, ça permet de diminuer
la prise au soleil,
la prise chaleur. Au soleil et d'avoir donc des rues plus fraîches et des bâtiments plus frais.
Oui, parce ensuite, qu'on on dit qu'à Lille, il fera la température de Marseille dans 20 ans.
Oui, bah donc on essaie de s'y adapter tout de suite, effectivement. La mobilité durable, donc c'est aussi privilégier tout ce qui est mode doux de transport, donc les véhicules partagés,
bien sûr.
Les autres modes de transport. Et ensuite, le dernier, c'est le bien-être, donc ce qui est le confort acoustique et les logements confortables de bonne taille.
Très bien, bah merci Eric en tout cas de nous avoir dévoilé les 6 points importants qui sont contenus dans cette lettre d'engagement. Un dernier petit mot, le mot de la fin je dirais, parce que l'émission touche déjà à sa fin, je vous avais prévenu, ça passe très très vite. Philippe, Jean-Michel, j'imagine que vous êtes aussi engagé dans cette démarche logement bas carbone. Est-ce qu'il y a encore, vous sentez, au niveau de vos confrères, si je puis les appeler comme ça, des gens encore un peu frileux sur ce sujet ?
Oh, je pense qu'on est tous convaincus d'abord que le logement bas carbone et puis finalement la diminution des émissions de CO2, c'est quelque chose qui est finalement inéluctable. Donc, bien évidemment, tous les promoteurs s'engagent, je pense, dans cette démarche. Certains d'entre eux n'auraient peut-être pas voulu que, on va dire, la ville remette finalement une forme de réglementation supplémentaire, parce qu'on est quand même effectivement dans un pays, vous en doutez bien, qui est déjà extrêmement normé, sur lequel il y a, on va dire, beaucoup d'administratifs. Et donc, cette démarche voulue par la ville de Lille, pour certains d'entre nous, représente encore finalement une difficulté supplémentaire. Donc, il y avait
quelques réticences parfois.
Quelques réticences en disant voilà, ça va encore faire un document de plus, c'est un document sur lequel on va encore venir un petit peu nous titiller. Si la bonne case n'est pas remplie, on aura encore un petit peu plus de difficultés à obtenir notre permis, etc. Donc, il y avait ces réticences-là. Mais je pense qu'effectivement, ces réticences-là ne pèsent rien par rapport finalement à l'objectif et l'image que nous pouvons donner finalement d'une profession qui renouvelle la ville en permanence. Parce qu'on parlait, Charlotte, de cette difficulté d'obtenir des permis, mais notre métier, c'est aussi de produire des nouveaux logements finalement accessibles grâce au dispositif Pinel, par exemple, hein, qui sont 20% en dessous des prix du marché, accessibles financièrement, mais aussi modernes dans leur performance énergétique, vertueux dans le bas carbone. Donc c'est ce renouvellement-là de la ville auquel nous contribuons, et c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, il faut absolument être vigilant à toute baisse momentanée.
Très bien, merci Philippe pour cet éclairage. Un mot pour Jean-Michel, un mot sur cette démarche.
Oui, très rapidement. De toute façon, je pense que nous n'avons pas le choix. Enfin, collectivement, nous n'avons pas le choix. L'enjeu de baisse des émissions de gaz à effet de serre est primordial, j'allais dire vital. Mais je pense que la prise de conscience se fait et s'accélère en ce moment, mais elle est réelle, je pense. Et donc, il faut qu'on agisse, soit au niveau international et national, par des grandes lois directrices de cadrage. Et puis après, faut descendre et appliquer ça au niveau local. D'ailleurs, à chaque citoyen, et le promoteur est aussi un citoyen. Et donc, il faut le rappeler quand même. Et puis après, dans son activité professionnelle. Donc, ce partenariat, c'est plus un cadre et la traduction d'un engagement collectif vers cette politique d'amélioration de nos projets vers le bas carbone. Il faut simplement que ça reste dans l'état d'esprit jusqu'à présent du partenariat, et puis de ne pas trouver de la rigidité, mais plutôt des modalités d'application souples qui fassent qu'on apprenne ensemble, puisque là, honnêtement, on va tous apprendre ensemble en marchant, si je puis dire.
Tout à fait. Bah, écoutez, en tout cas, on vous remercie. C'est une jolie démarche. Même si elle est inéluctable, c'est bien de prendre toujours un peu d'avance sur ces sujets. Sur ces sujets verts, si je puis dire. Écoutez, je dois vous quitter. Nous devons nous quitter. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez pris plaisir à partager cette émission avec nous. Merci à Baptiste, à la technique. Et voilà, l'hebdo des régions touche à sa fin. On se retrouve pour un prochain numéro le 7 mai.
L'hebdo des régions avec la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers. Une émission à réécouter et télécharger sur radio.imo, l'application mobile radio.imo et tous les agrégateurs de podcasts.